Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Vous pouvez prendre place et prendre vos Bibles, puisque nous allons les ouvrir et lire quelques textes. Nous arrivons aujourd'hui à la dernière prédication sur l'épître à Philémon, donc nous lirons évidemment un passage dans Philémon, et nous lirons encore deux autres passages, l'un dans Matthieu 18 et l'autre dans Colossiens 3. Comme ça, vous avez déjà les directions dans lesquelles nous allons aller. Donc le premier texte sera dans Philémon 1, et nous entendrons la lecture du verset 17 à 22. Et ensuite, les deux autres lectures suivront.
Alors, pour commencer, lisons dans l'épître au Philémon les versets 17 à 22. Donc Philémon au verset 17. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai pour ne pas dire que tu ne dois, pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Ensuite, une deuxième lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, les versets 21 à 35. Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois donnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant, « Prends patience envers moi et je te payerai. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Et finalement, une dernière lecture dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 17. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 17. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Il n'y a là ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ en tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saisis et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse et par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Voilà jusqu'ici les lectures pour la prédication.
Qui a prié ce matin, ou peut-être hier, pour que ce culte soit la gloire de Dieu? Je ne vous demande pas de lever les mains. Qui a prié que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs ce matin, au travers de sa parole prêchée? Eh bien, nous allons encore le demander. Éternel, sans l'œuvre de ton Esprit dans nos cœurs, nous ne pourrons être saisis par ta parole. Nous implorons donc ton œuvre pour chacun de nous ce matin. Amen. Nous allons donc aujourd'hui terminer notre série sur la petite épître de Philémon que j'ai appris en fait à aimer encore plus et que j'ai encore plus découvert en profondeur. Donc je me réjouis d'avoir encore ce temps avec vous sur cette lettre. Si nous n'avons pas lu les derniers versets, c'est qu'en fait nous les avions vus dans la première prédication, tout simplement. Je suis impressionné, plus je réfléchis sur cette épître, plus je l'étudie, par la manière dont Paul est rempli de l'Évangile. Nous pourrions recommencer la méditation de cette petite lettre et chercher tous les détails liés à l'Évangile. Ce que Paul n'aurait pas pu écrire si l'Évangile n'existait pas. Les premiers mots, vous vous souvenez, hein, Paul prisonnier de Christ Jésus. Déjà là, il ne pourrait pas être prisonnier de Christ Jésus sans l'Évangile. Ensuite, il continue, il appelle Timothée son frère, qui est en fait son frère en Christ. Sans l'Évangile, il ne serait pas son frère. Et je n'ai même pas terminé la première phrase. Donc on pourrait reprendre toute l'épître pour réfléchir de cette manière. Je suis si profondément marqué par cette omniprésence de l'Évangile que cela me motive à progresser pour que ce soit le cas aussi dans ma vie et je le souhaite aussi dans la vôtre. Alors ce matin, j'aimerais nous régaler de liens avec l'Évangile, évidemment, que nous trouvons dans les versets 18 à 22. Nous avons repris le verset 17 pour nous rappeler en fait la dernière prédication qui nous a permis de souligner une phrase extraordinaire lorsque nous la comprenons dans le cadre de l'Évangile. Ce verset 17, regardez. « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. » Et rappelons-nous, nous avons pu saisir que c'est ce que Jésus dit au Père nous concernant. Nous sommes accueillis par Dieu lorsque nous sommes en Christ, comme s'il accueillait Jésus, son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. L'amour de Dieu pour nous nous dépasse, et cet amour, en fait, dépend de son amour pour Jésus. Comprenez ? L'amour que Dieu a pour nous dépend de l'amour qu'il a pour Jésus. C'est un amour si grand, si profond, si complet, si extraordinaire, si fort, qu'on n'a jamais à douter de l'amour de Dieu pour nous. parce qu'il dépend de son amour pour son fils. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres éléments extraordinaires. Dans un premier temps, réfléchir à ce que Paul dit à Philémon concernant Onésime. Hein, c'est le premier sens du texte et il est important de bien le comprendre. Hein, Paul est en train de lui écrire une lettre. Et je me réjouis ensuite de faire les liens avec l'Évangile parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui, donc il faudra nous accrocher. Mais en même temps, ça sera pour notre joie. Dans la même ligne que nous avons tenue jusqu'ici, nous continuons à voir et à comprendre la lettre de Paul inspirée par le Saint-Esprit à Philémon, qui est un appel à la réconciliation. Cette lettre est un appel à la réconciliation entre Philémon et Onésime, qui est parti. Donc c'est un appel à la réconciliation. Et nous avons vu dans la première prédication l'importance du médiateur. Ensuite, dans la deuxième, nous avons parlé des ingrédients essentiels pour la réconciliation. Dans la troisième, c'est les versets 4 à 7. Ensuite, les versets 8 à 12, la transformation qui permet la réconciliation. Ensuite, nous avons vu versets 13 à 17, la dernière fois, la réconciliation avec un esclave. Et aujourd'hui, j'ai intitulé cette prédication « Une réconciliation attendue ». Une réconciliation attendue, les versets 18 à 22. Et avec l'aide donc du Saint-Esprit, l'auteur ultime de cette lettre, qui se trouve dans la parole de Dieu, nous comprendrons que, un, Paul est prêt à rembourser. Je fais déjà un lien. Christ n'est pas seulement prêt à le faire, il l'a fait. Deuxièmement, nous verrons que Paul rappelle ce que Philémon a reçu. Je fais aussi déjà un lien. Ce que nous avons reçu de Christ nous pousse à donner aussi. Et troisièmement, Paul appelle Philémon à vivre l'Évangile. Il a un lien. L'obéissance à Christ et l'accueil des autres sont encouragés par l'obéissance et l'accueil de notre Sauveur. Donc commençons par la première partie, les versets 18 et 19a, intitulé « Paul prêt à rembourser ». Donc relisons ce verset et demi. « S'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te le rembourserai. » Paul sous-entend par ce qu'il dit ici dans ce texte que Onésime a fait du tort à Philémon et qu'il a pris quelque chose à Philémon. Ce qui fait penser que Onésime, en partant, a volé son maître. Cela rend en fait la situation d'Onésime encore plus difficile, parce que les esclaves qui volaient leur maître étaient durement punis, afin de servir d'exemple et empêcher les autres de le faire. Donc non seulement il est parti, mais il a volé. Donc Onésime arrive auprès de son maître avec des torts et des dettes. Paul, ici, va au devant d'Onésime avec la lettre qu'il envoie pour parler à Philémon. Il est intéressant de constater ici que Paul ne diminue pas la faute d'Onésime. Il ne diminue pas la faute d'Onésime. Il y a déjà quelque chose ici d'important à souligner et retenir. La parole de Dieu ne minimise jamais le péché. La parole de Dieu ne minimise jamais le péché. Nous avons toujours, souvent tendance dans notre vie, et c'est général dans notre société, pour atténuer la culpabilité ou la responsabilité à pardonner, de dire « c'est pas grave, c'est pas grave ». Mais Paul ne dit pas à Philémon que ce n'est pas grave. Dans un autre sens, il n'appuie pas non plus sur la faute pour la rendre plus grande et plus dramatique. Paul nomme la faute clairement, des torts et le fait que Onésime lui doit quelque chose. Donc la parole de Dieu ne minimise jamais le péché. Ensuite, deuxième élément que je souhaite souligner, Paul ne dit pas que Onésime ne doit plus rien à Philémon parce qu'il se serait converti. La parole de Dieu, si nous y trouvons la grâce, n'enlève jamais le paiement qui est dû. Et si ce n'est pas le fautif qui paie, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera ou parfois même celui qui est lésé. Si quelqu'un a volé 100 francs, si le propriétaire lésé de cet argent dit qu'il fait grâce, qu'il ne doit pas besoin de lui redonner s'il demande pardon, c'est donc lui qui investit ses 100 francs pour l'autre. Il ne les retrouve pas. En quelque sorte, il paie la faute de l'autre. Paul a pris sa plume ici. Hein. Il semble, puisqu'il parle de son frère Timothée au début de la lettre, que c'est Timothée qui écrit sous sa dictée, mais ici il prend sa plume hein, pour écrire de sa propre main, pour mettre sa signature, afin de certifier à Philémon qu'il peut payer la dette d'Onésime. Hein, Paul a pris la plume pour écrire de sa propre main, pour y mettre sa signature, afin de le certifier, Philémon peut mettre la dette d'Onésime sur son compte. Je le certifie. Philémon, tu peux mettre la dette d'Onésime sur mon compte. On se dit, ouais, mais il était prisonnier. Avait-il les moyens? Certainement. Parce qu'en fait, il était soutenu par des églises. On le voit, Philippe, à l'église de Philippe, qui lui a donné aussi de l'argent, et il pouvait l'utiliser aussi pour ce genre de choses. Ça faisait partie de son ministère. Mais Paul, lorsqu'il parle à Philémon, est rempli de l'Évangile. Je vous l'ai déjà dit, on va le voir encore plus. C'est ce qui le motive. Les principes de l'Évangile, en fait, il cherche à les vivre lui-même. Et il veut transmettre selon ses capacités et sa condition. Et cette phrase du Saint-Esprit par Paul devrait aussi maintenant résonner dans nos cœurs en ayant l'Évangile dans nos têtes. Regardez avec moi ce texte de Philémon 1, 18 et 19, en réfléchissant à l'Évangile. Et là, c'est plus Paul, mais c'est Christ qui parle. Père, s'il a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. C'est ce qu'il dit au Père. Père, s'il t'a fait quelque chose ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Jésus, je le demande avec ma propre vie, je le rembourserai. Moi, Jésus, je le demande avec ma propre vie, je le rembourserai. Dieu, en fait, est notre créateur. Il nous donne la vie et toutes les capacités que nous avons. Rien de ce que nous avons et pouvons faire ne serait possible sans l'œuvre de Dieu. Si Dieu n'agissait pas, nous ne pourrions rien faire. Oui, nous faisons des choses par nous-mêmes. Mais ces choses que nous faisons par nous-mêmes s'appuient sur des choses que nous avons reçues. Avons-nous rendu gloire à Dieu pour tout ce que nous avons reçu? Avons-nous cherché à suivre tout ce qu'il demande? Vivons-nous selon le mode d'emploi de la création que nous sommes? En fait, tous, nous avons fait du tort à Dieu. Tous. À Dieu, ce Créateur, que nous n'avons pas reconnu comme notre roi souverain total. Nous avons rejeté Dieu, nous avons utilisé ce qui lui appartient pour nous comme des voleurs. Et nous avons souvent péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est faire ce que Dieu interdit et c'est aussi ne pas faire ce qu'il ordonne. Chaque péché est comme un trésor de colère pour le jour du jugement qui s'amasse sur nous. Ça, c'est Romains 2, 5 qui le dit. Et ce sont des torts que nous faisons à Dieu et des choses que nous lui devons. Nous sommes face à Dieu, celui qui donne la vie, celui qui décide ce qui est bien et mal, celui qui est totalement saint, juste et parfait. Et nous avons besoin, comme Onésime, qui était complètement fauché, qui a riché Philémon, que quelqu'un paie pour nous. Nous avons besoin que quelqu'un paie pour nous. Et c'est là que cette parole que nous pouvons entendre de Jésus devient encore plus extraordinaire quand nous la saisissons. Père, s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Jésus, je le demande avec ma propre vie, je le rembourserai. Il est dit pour ceux qui se repentent de leur péché et croient en lui. Alors, c'est quoi se repentir? Se repentir de ses péchés, c'est reconnaître ses fautes sans les minimiser. C'est assumer ce que nous pouvons dans la réparation. C'est demander pardon et chercher à se détourner du mal. C'est ça la repentance. Et croire en Jésus, eh bien, c'est faire confiance, saisir par la foi son œuvre à la croix qui nous libère de la dette pour le servir, qui nous fait mourir à notre vieil homme pour vivre pour lui, baptisé en Christ. Et là, cette phrase devient extraordinaire. Père, si On peut mettre votre prénom, hein. Si Monique, Marc, Catherine, Pierre-Alain, enfin bon, je m'arrête ici, hein. Mettez votre nom, vous qui croyez en Christ, si Stan t'a fait quelque tort, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Jésus, je le demande, avec ma propre vie, je le rembourserai. Paul dira en 1 Corinthiens 7, 23, « Nous avons été rachetés à un grand prix. » Et Jésus va dire, lorsqu'il est en croix, « Tout est accompli », ce qui peut aussi signifier « Tout est payé ». Alors, je pourrais m'arrêter ici, dans la prédication, et nous aurions déjà un beau trésor dans le cœur. C'est vrai, avec ce texte magnifique que nous voulons garder. Mais nous allons continuer à nourrir nos âmes en réfléchissant à ce que Paul, guidé par le Saint-Esprit, dit à Philémon. Paul est prêt à rembourser et dit à Philémon qu'il lui doit quelque chose. C'est le deuxième point, ce que Philémon doit à Paul, verset 19b. C'est assez court, hein. Là, il dit « pour ne pas dire que tu te dois toi-même à moi ». Avant de réfléchir à ce que Philémon doit à Paul, réfléchissons un moment à ce que nous devons à ceux qui sont autour de nous. Nous avons tous des parents. Les uns plus aimants que d'autres, peut-être, mais pour la plupart, nous avons reçu de l'amour, des soins et ce dont nous avions besoin pour grandir, pour nous former. Et si ce n'est pas les parents qui l'ont donné, c'est quelqu'un d'autre. Qui a remboursé cette dette ? Et est-il même possible de quantifier le nombre de nuits sans sommeil lorsqu'il fallait accompagner les douleurs de la venue des dents qui perçaient les gencives ? Ou le temps passé à jouer, à apprendre les choses par l'exemple, ou en accompagnement le travail des devoirs, en prenant soin à chaque grippe, ou même en allant aux urgences lorsqu'il y en avait besoin ? Sans parler de tout le bagage spirituel qui a été reçu, nous devons beaucoup à ceux qui se sont occupés de nous. Après les parents, nous pourrions parler de nos conjoints, de nos frères et sœurs dans la famille et en Christ, des anciens, des voisins, des collègues, de nos profs, et on peut continuer la liste. Pouvons-nous vraiment rembourser tout ce qu'ils nous ont donné ? Paul, en disant à Philémon qu'il se doit à lui, fait penser, et c'est ce que beaucoup pensent, que c'est Paul qui a conduit Philémon à la foi en Christ. C'est à cause de cette phrase-là que tout le monde pense que Paul a amené Philémon à Christ. Et je le crois volontiers. Ce qui signifierait que Philémon doit sa nouvelle vie en Christ, bien entendu d'abord, à Dieu. Ce n'est pas Paul qui transforme sa vie, c'est Dieu. C'est Dieu qui est celui qui transforme. Et Dieu a choisi que Paul soit celui qui le conduise à Christ. Pour encore un petit peu plus réfléchir à cette notion, Jésus donne une illustration de ce principe dans Matthieu 18. Et il est intéressant de constater que le contexte de ces paraboles se situe dans la question du pardon. Hein, Pierre vient de lui poser une question, on l'a lu tout à l'heure. Hein. Pierre s'approcha du Seigneur et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêche contre moi ?» Jusqu'à sept fois, juste en passant, quand Pierre dit sept fois, il ne se moque pas de Jésus. Hein. Les pharisiens disaient que trois fois, c'était déjà beaucoup. Hein. Donc, Pierre, il est beaucoup plus loin qu'à l'époque ce qu'on pensait. Hein. Je continue. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à 70 fois sept fois. Et comme nous l'avons vu avant la prédication, à la suite du passage, parle de Jésus qui raconte l'histoire d'un roi qui fait rendre des comptes à ses serviteurs. Un homme lui doit plus qu'il ne peut payer, même en vendant tout ce qu'il a, en le vendant lui-même et en vendant son épouse et ses enfants. Il n'arrivait pas à payer sa dette. Et ce pauvre homme fait appel à la grâce et il est acquitté de sa dette. Il doit beaucoup à son maître qui l'a gracié. Et il est appelé à avoir de l'égard pour les autres serviteurs de son maître et avoir une attitude semblable à celle de son maître. En fait, c'est ces choses-là qui sont à l'arrière-plan de la pensée de Paul lorsqu'il dit ces choses à Philémon. Hein, ici, à nouveau, c'est
un Paul rempli d'évangiles qui parle. Jésus ne pourrait pas le dire à plus forte raison, nous dire hein, à nous tous ici, à ceux qui sont en lui, tu te dois toi-même à moi. Tu te dois toi-même à moi, avec tout ce que j'ai payé pour toi et tout ce que je t'ai pardonné. Tu te dois toi-même à moi. Appartenir à Christ est un engagement total. Il n'y a pas d'aspect de notre vie que nous pouvons vivre à notre guise et d'autres comme il veut. Non, c'est en fait tout ou rien. Soit nous appartenons à Jésus-Christ, soit nous ne l'appartenons pas. Ce n'est pas possible entre deux. Soit nous sommes à Christ, soit nous ne sommes pas à Christ. Et qu'est-ce que cela change que Jésus puisse te dire « Tu te dois toi-même à moi dans tes relations ». Est-ce que la manière de traiter les autres est influencée par le fait que nous nous devons entièrement à Christ? Comment le Christ aime-t-il ceux qui nous entourent? Comment le Christ aime-t-il ceux qui nous entourent? Ceux qui vivent dans notre foyer, notre famille spirituelle, nos parents plus éloignés, toutes nos relations. Si nous nous devons à Christ, ne sommes-nous pas encore plus responsable de ses relations? Paul, rempli de l'Évangile, a rappelé à Philémon la notion du prix payé et lui a rappelé la notion de l'appartenance. Et maintenant, dans les versets 20 à 22, il fait un vibrant appel à la réconciliation, toujours rempli de l'Évangile. C'est notre troisième point. Un appel vibrant à la réconciliation. Relisons les versets 20 à 22. « Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. » Et nous voyons ici, dans cette petite section, cet appel vibrant à la réconciliation, quatre éléments. Je ne sais pas si vous les voyez. En reprenant les versets ici. Le premier, c'est la réconciliation des autres tranquillise le cœur des croyants. La réconciliation des autres tranquillise le cœur des autres croyants. Ça, c'est un premier élément. On y reviendra. On reviendra sur les quatre éléments très courtement. Mais je les donne déjà les quatre. Deuxième élément, l'obéissance à l'Évangile dépasse les attentes de la réconciliation. L'obéissance à l'Évangile dépasse les attentes de la réconciliation. Troisièmement, pour ceux qui notent, on y reviendra, donc je redirai hein, si jamais vous avez loupé un mot. Troisièmement, l'accueil est un fruit de l'Évangile. L'accueil est un fruit de l'Évangile, il manifeste et prouve la réconciliation. L'accueil est un fruit de l'Évangile, il manifeste et prouve la réconciliation. Et dernier élément, le quatrième, les prières sont fondamentales dans la libération et la réconciliation. Les prières sont fondamentales dans la libération et la réconciliation. Donc reprenons courtement ces trois éléments. Donc premièrement, la réconciliation des autres tranquillise le cœur des croyants. Regardez le verset 20. « Oui, frère, que j'obtienne de toi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. » Paul veut faire comprendre ici à Philémon, et on pourrait dire le Saint-Esprit à nous tous, que les conflits non réglés ne touchent pas seulement les personnes directement concernées, mais également ceux qui les entourent. La réconciliation non seulement amène une tranquillisation entre les personnes concernées, mais aussi pour tout leur entourage. Plus besoin de faire attention lorsque l'autre personne est nommée. Plus besoin de marcher sur des œufs et de ne pas savoir comment aborder des sujets qui rappellent le conflit. Plus besoin, lorsqu'il y a réconciliation, c'est la tranquillité. Des fois, je me demande pourquoi certaines personnes, et parfois moi-même aussi, s'accrochent à un conflit sans vouloir le régler lorsque nous saisissons tous les bienfaits de la résolution de conflits. La réconciliation est tellement plus tranquille. Le Saint-Esprit, par Paul, souligne bien à Philémon que ce service est à vivre, vous avez vu le verset 20, dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il ne demande pas à Philémon de trouver la force en lui-même pour pardonner, mais qu'il fasse le service dans le Seigneur. Et nous avons particulièrement vu cela lorsque nous avions parlé du pardon dans la série de l'artisan de paix, où nous avons vu clairement que le pardon que nous pouvons offrir aux autres ne vient pas de nous. Il vient de Christ, chez qui nous allons le chercher, le vivre pour le donner. Au verset 21, on passe à l'étape suivante. Ici, Paul va encore plus loin. L'obéissance à l'évangile dépasse les attentes de la réconciliation. Ça, c'est le verset 21. Où il dit, « C'est en me fiant à ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. » C'est en me fiant à ton obéissance. Est-ce que Paul, il n'est pas en train de se contredire, là ? Pour ceux qui ont un petit peu la lettre en tête de Philémon, une fois je me trompe, là, de lettre de Philémon, en disant qu'il se fie à son obéissance, est-ce qu'il ne contredit pas ce qu'il a dit dans les versets 8 et 9 ? Dans les versets 8 et 9, il a dit « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, c'est-à-dire pour te demander d'obéir, hein, j'aime mieux te prier au nom de l'amour. » Avant, il veut qu'il agisse par amour et maintenant par obéissance. Est-ce qu'il y a une contradiction dans ce que Paul dit ici ? Eh bien, il ne me semble pas. Parce que si nous comprenons que dans les versets 8 et 9, il s'agit d'obéir à Paul, et dans le verset 21, c'est d'obéir à l'Évangile, il n'y a aucune contradiction. Dans les versets 8 à 9, il est en train de plaider avec Philémon par rapport à lui-même, par rapport à l'amour qu'il a pour lui aussi, et l'amour qu'il a pour lui et pour Christ derrière exactement aussi. Hein. Et puis, au verset 21, il n'est plus en train de lui dire de lui obéir à lui, l'Évangile est tellement fort ici, on l'a déjà vu ensemble, et bien il est en train de parler de cette obéissance à l'Évangile. Hein. Complètement rempli de l'Évangile, Paul expose les différents éléments qui le composent. « Accueille-le comme moi. » Christ a fait ça. « S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Tu te dois toi-même à moi. Rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. » Pour ne citer que les derniers qu'on a vus encore aujourd'hui. Donc Paul a montré un chemin. C'est le chemin de la réconciliation en Christ. Et il ne maîtrise pas comment cela sera vécu. Il ne le maîtrise pas. Ce n'est pas Paul qui va se réconcilier avec Onésime, c'est Philémon. Donc Paul ne maîtrise pas comment Philémon va le vivre. Il lui montre un chemin. Il lui parle de l'Évangile. Et en plus, il ne lui a pas exposé toute l'œuvre de Christ ici dans l'épître à Philémon. Donc Paul, ayant mis Philémon sur la route de la réconciliation en Christ, était là pour l'orienter. Mais comme je l'ai dit, pas pour faire le chemin à sa place. Et il est conscient qu'il y a plus que ce qu'il a dit qui pourrait être fait. Et il compte sur l'action de l'Esprit en Philémon et se fie ainsi à l'obéissance de Philémon à Dieu. Or, certains disent que faire au-delà de ce que Paul dit ici, c'est affranchir Philémon. Plus esclave. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais je ne pense que ce n'est pas la première pensée. Même si cela peut en faire partie. Car en fait, c'est un soutien pour que Onésime puisse être utile dans le royaume de Dieu qui est le plus important ici. C'est que Onésime puisse vivre sa foi pleinement. C'est ça le plus important. Et si ça passe par un affranchissement, ben voilà, ça peut passer par là. De plus, nous avons vu lors de la dernière prédication que Philémon ne pouvait pas être un maître avec l'idée que l'esclave était sa propriété sur laquelle il avait des droits de vie ou de mort. C'est vrai que légalement, c'était juste. Mais Philémon est chrétien. Il connaît la parole. Il est fidèle à l'enseignement biblique. Et le considérait Onésime comme étant créé à l'image de Dieu. Qu'il était à son service en lui donnant ce dont il avait besoin pour exercer ce service, dans la décence et avec les forces nécessaires. Et si vous avez besoin de revenir à la réflexion de l'esclavage et de la Bible, bah ça, il faut écouter la prédication précédente. Ça, je ne vais pas y revenir maintenant. Paul avait aussi envoyé une lettre à Colosse. Et lorsque Philémon a reçu sa lettre, où il a donné quelques éléments concernant le pardon, Philémon l'a entendu. Il l'a entendu. Et on a lu une portion hein, dans Colossiens tout à l'heure, pour être un petit peu imbibé de ce texte aussi, les versets 1 à 17 du chapitre 3. On va juste en relire quelques-uns depuis le verset 12. Colossiens 3, 12 à 14, pour qu'on ait en tête ce que Philémon pouvait aussi avoir. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. En fait, juste dans ces quelques versets, il y a plus de choses de la façon de vivre l'Évangile que ce que Paul a dit dans l'Épître à Philémon. Donc quand il lui dit que tu feras au-delà de ce que je dis, donc dans cette lettre à Philémon, ça fait référence à tout ce qui concerne la manière de vivre l'Évangile. Paul veut impliquer Philémon dans l'accueil d'Onésime ensuite. C'est un peu abrupt le changement là. J'étais en train de dire que Philémon allait vivre de manière plus grande encore l'Évangile que ce que Paul souligne ici. Et Paul va encore un peu plus loin avec la partie suivante, quand il parle de l'accueil, hein, le verset 22. Dans le verset 22, Paul veut même impliquer Philémon dans l'accueil d'Onésime en lui préparant en même temps un logement pour l'accueil. C'est la partie suivante. L'accueil est un fruit de l'Évangile, il manifeste et prouve la réconciliation. Donc l'arrivée de Paul chez Philémon aurait au moins quatre effets. Si Paul venait, hein, là, après, là, il y aurait au moins quatre effets. Le premier, c'est de constater que Onésime est bien traité. Puisqu'il l'a renvoyé, il ne sait pas ce que Philémon va faire. Mais s'il vient rendre visite, il pourrait constater comment Onésime est traité, s'il est bien traité. Deuxièmement, il pourrait montrer à Onésime que Philémon est accueillant. Non seulement il aurait accueilli Onésime, mais il accueille aussi Paul. Or, il a déjà pu le voir avant, mais là, il pourrait le voir après sa conversion. Puisqu'avant la conversion, il n'avait pas les capacités de le comprendre. Et troisièmement, il pourrait permettre à Onésime de se mettre au service de Philémon pour prendre soin de Paul. Et quatrièmement, cela pourrait manifester la bienveillance de Dieu qui répond aux prières. Alors je ne vais pas développer ces quelques points, à part le dernier dans quelques instants, mais j'aimerais plutôt à nouveau souligner que Paul est pétri d'évangile dans ce qu'il dit là. Lorsqu'il demande de préparer un logement pour lui, c'est aussi une manière de dire à Philémon qu'il peut imiter son maître divin en faisant déjà sur terre ce qu'il fera au ciel pour les siens. Vous connaissez ce texte que Philémon connaissait aussi, il connaissait aussi ce que Jésus avait dit. Est-ce qu'il avait déjà l'épître de Paul, l'évangile de Paul? Ça, je ne suis pas sûr. Par contre, que les paroles de Jésus soient parvenues jusqu'à lui, ça j'en suis certain. Maintenant, les termes exacts, je ne sais pas. Là, je peux vous lire dans Jean 14, par contre, ce qui est dit au verset 3. « Donc, si je m'en vais, c'est Jésus qui dit, et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et donc, l'accueil de Christ est une puissante stimulation à accueillir selon nos moyens ici-bas. Si lui nous accueille, si lui nous prépare une place, eh bien nous pouvons le faire ici-bas déjà pour nos frères et sœurs. Prenons juste quelques secondes pour apprécier ce principe de l'Évangile. Jésus nous dit à tous ceux qui sont en Christ, « Je m'en vais vous préparer une place. » Vous avez déjà médité sur ça? Généralement, quand je médite sur ça, je deviens très joyeux. C'est extraordinaire, il me prépare une place. Puis j'aimerais tout de suite y aller, bon après ça c'est son affaire quand on y va, mais il nous prépare une place. Quelle joie lorsqu'on peut expérimenter l'accueil, même déjà sur cette terre. Avec Marlise, on l'a vécu à plusieurs reprises, d'être accueilli, puis de se dire mais on est accueilli comme si c'était Christ qui était accueilli. On l'a vécu très fortement lorsqu'on était aux US, on était un profond ressenti d'un accueil bienveillant. Ça sera encore mieux auprès du Seigneur. Quelle joie d'expérimenter cet accueil, mais quelle joie aussi d'être des lieux d'accueil où d'autres peuvent ressentir cet avant-goût du ciel. Paul veut cela pour Onésime. qu'il puisse rentrer à la maison et que Philémon l'accueille. Il veut cela pour lui aussi. Et j'aimerais parler d'un dernier élément qui se trouve à la fin du verset 22, qui dit que les prières sont fondamentales dans la libération et la réconciliation. Vous avez vu ce qu'il a dit à la fin ? Donc en même temps, préparez-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Grâce à vos prières. Paul n'a pas chaque fois été libéré de prison, même si à chaque fois sûrement des croyants priaient pour sa libération. C'est vrai. Mais chaque fois que Paul a été libéré de prison, c'était grâce aux prières. Il semble d'ailleurs que Paul a été libéré de cet emprisonnement après avoir été écrit à Philémon. Il semble qu'il a été libéré, puis ensuite il a été de nouveau arrêté et ensuite exécuté. Mais rappelons-nous que Dieu agit avec nos prières. Elles font partie de son plan. Non, nous ne ferons jamais changer d'avis Dieu. Ça, c'est clair. Nous ne le ferons pas changer d'avis. Mais oui, nous pouvons entrer dans sa volonté et le prier, en quelque sorte participer à son œuvre. Et nos prières ont de la valeur et de l'efficacité. Surtout de nos jours, mais je pense que ça, c'est depuis la chute. Nous pensons que c'est uniquement si tout le mérite nous revient que nous avons vraiment fait quelque chose. Si on peut perdre tout le mérite, ben on n'a rien fait. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses. Car qu'as-tu que tu n'aies reçu ? La vie, les capacités et tant d'autres choses que nous faisons sont construites sur quelque chose que nous avons reçu. Ainsi de même dans la prière, nous sommes actifs dans l'œuvre de Dieu. Donc utilisons ce moyen pour agir avec Dieu tout en reconnaissant que toute la gloire lui revient. Paul était conscient que ses prières étaient utiles et que celles de ceux qui priaient pour lui étaient aussi utiles. Mais c'est toujours en Christ qu'il se confiait et pas dans les prières des personnes. Par contre, ses prières s'adressaient à Dieu en Christ. Jésus a enseigné la prière à ses disciples. Il l'a lui-même pratiquée, cette prière, étant homme dépendant du Père, même s'il était également Dieu. Alors, à plus forte raison, nous qui ne sommes que humains et non divins, nous sommes dépendants de Dieu, qui, dans sa grâce, vient habiter en nous par son esprit. Paul était complètement imbibé de l'Évangile. Dans tout l'épître de Philémon, nous le voyons. Alors, qu'allons-nous retenir de cette épître ? Enfin, peut-être, qu'allons-nous retenir de cette prédication d'abord ce matin ? Qu'allons-nous retenir ? Moi, je vous suggère trois phrases. La première, s'il t'a fait quelque tort ou qu'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Avec tout ce que cela signifie. Première phrase. Et là, rappelons-nous, Jésus a payé ce que nous ne pouvons pas payer. Venons à lui repentant pour nos péchés et saisissons l'œuvre de grâce qu'il a accomplie pour nous. Donc la première phrase, s'il a fait quelque chose ou qu'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. La deuxième phrase que je vous propose de retenir, c'est « Tu te dois toi-même à moi. » Tu te dois toi-même à moi. À qui nous devons-nous ? Et troisième phrase, « Prépare-moi un logement. » Prépare-moi un logement. Qui pour moi me fait tellement penser à ces paroles de Jésus qui dit qu'il va nous préparer une place. Jésus prépare une place pour ceux qui sont transformés par sa grâce. Notre vie manifeste-t-elle les fruits de l'accueil des autres ? Vous souvenez des trois phrases ? Alors la première, c'est « S'il t'a fait quelque tort ou qu'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. » Deuxième, « Tu te dois toi-même à moi. » Et troisième, « Prépare-moi un logement. » Nous allons prier. Éternel notre Dieu, j'aimerais te remercier pour cette épître à Philémon qui est tellement saturée de cette compréhension de l'œuvre de Christ qu'il inspire Paul dans ce qu'il dit, dans ce qu'il veut faire, dans ce qu'il veut faire comprendre. et qui lui donne une force, une sagesse, et qui donne un espoir, qui poussera Philémon à recevoir cette lettre en terminant de la lire, il aura envie d'être réconcilié, parce qu'il voit que c'est ton œuvre. J'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à avoir la même attitude que Paul. J'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à recevoir cette lettre pour nous-mêmes, afin que toutes les situations où il y a besoin de réconciliation, cette lettre soit pour nous un puissant encouragement à le vivre en Christ. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous donner cette grâce, de voir tous ces éléments de l'Évangile dans ce texte et de nous en délecter, de nous en réjouir, de nous en remplir, de les méditer, de les aimer. Et j'aimerais, Seigneur, te dire merci, particulièrement pour la dernière chose qu'on a vue, que tu nous prépares une place, tu vas nous accueillir. Tu n'as même pas attendu qu'on te demande que tu nous prépares une place, tu l'as dit. Et ce que tu dis, tu le fais. Merci pour cette grâce. Merci pour les accueils que nous pouvons déjà recevoir ici-bas qui nous font penser à cet accueil que tu vas nous faire. Et merci pour les accueils que nous pouvons donner pour que ceux qui le reçoivent peuvent déjà se réjouir de l'accueil que tu vas leur donner et que tu nous donnes déjà maintenant, chaque fois que nous tournons vers toi. Seigneur, j'aimerais te prier que ton évangile brille dans nos cœurs, personnellement et en Église. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.